Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans un seul et même magazine, iDébat, l'édition du 13 novembre 2025.
Bonjour. Oui, c'est une approche un peu différente pour nous.
C'est ça, mais le numéro est tellement dense qu'il offre une photographie quasi complète des grands enjeux qui secouent le Maroc en ce moment.
C'est un véritable écosystème en une centaine de pages. On a des éditos, des analyses de fond, des chroniques plus personnelles.
Et ce qui est frappant, c'est que tout semble se répondre.
Exactement. On sent un pays qui avance un peu à plusieurs vitesses, avec des succès qui sont assez éclatants d'un côté et puis des fractures profondes de l'autre. Voilà, donc la grande question qui ressort, c'est comment le Maroc navigue au milieu de tout ça? On a une diplomatie qui semble sommet de sa forme, mais en même temps des tensions internes fortes et une révolution numérique qui vient tout bousculer. C'est ce qu'on va essayer de démêler. Allez, c'est parti.
Alors, commençons par le plat de résistance, ce que les sources appellent un véritable tournant historique sur la question du Sahara. On parle de la dernière résolution du Conseil de sécurité, bien sûr.
Oui, les références S20-2572 et 2797. Mais bon, au-delà des numéros, ce qui compte, c'est vraiment le contenu.
Et le contenu change tout.
Complètement. Le changement est sémantique, mais il est tectonique. Jusqu'à présent, l'initiative marocaine d'autonomie était une option, disons, sérieuse et crédible parmi d'autres.
Voilà, une option sur la table.
C'est ça. Et désormais, les textes onusiens la consacrent comme la seule base pour une solution politique. C'est un changement de paradigme total.
Et en face, l'option du référendum est balayée. Un des éditoriaux utilise le terme « fiction diplomatique ». C'est fort.
Fiction diplomatique, oui, l'expression est très forte. Ça met fin à des décennies d'ambiguïté. Mais ce qui est intéressant, c'est que les articles n'analysent pas ça comme une victoire surprise.
Non, pas du tout comme un coup de poker réussi.
Au contraire, l'un des chroniqueurs parle du génie de la patience, et je trouve la formule très juste. Ce succès, il est présenté comme l'aboutissement d'une stratégie de très long terme.
Qui repose sur plusieurs piliers, si j'ai bien compris.
Oui, le premier, c'est la constance. Tenir sa ligne, quoi qu'il arrive, sans jamais dévier, même face aux provocations.
Le génie de la patience, j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas que de la patience, si j'ai. Parce que les textes insistent aussi énormément sur les faits accomplis sur le terrain.
Ah, mais c'est un point essentiel.
Le port de Dakhla, les fermes éoliennes, ça, ce n'est pas de la patience, c'est de l'action pure.
Bien sûr. Et les deux sont liés. La patience stratégique n'est pas l'inaction. Ces investissements massifs sont décrits comme des arguments stratégiques tangibles.
C'est plus que de l'économie.
Beaucoup plus. Quand vous construisez un des plus grands ports d'Afrique, vous ne faites pas que du commerce. Vous ancrez votre souveraineté dans le réel, physiquement. Vous rendez la situation irréversible. Et ça, ça finit par rendre votre position diplomatique incontournable.
Et le troisième pilier, c'est le jeu des alliances, bien sûr.
Évidemment.
Les ralliements internationaux qui ont tout changé. Les États-Unis d'abord, puis l'Espagne, l'Allemagne. Ça a créé une vague de soutien.
Un consensus, en fait.
Mais cette force diplomatique, les articles l'allient aussi à quelque chose de plus profond. Une cohésion interne.
Absolument. Et le symbole fort, c'est l'institution du 31 octobre comme fête de l'unité. Ça renvoie directement à la marche verte de 1975.
Qui est décrite comme un mythe vivant.
Oui, un pacte fondateur qui se renouvelle sans cesse entre le trône et le peuple.
D'ailleurs, il y a une anecdote que je trouve personnellement incroyable dans un des articles. La fameuse chanson « Savit El Hassan Younadi ».
La voix de Hassan Appel, oui.
Eh bien, elle a été composée, écrite et enregistrée en une seule nuit.
Une seule nuit, c'est fou. Ça devient, comme le dit l'auteur, l'ADN sonore de l'événement.
Exactement.
Et ça prouve que l'unité nationale, ce n'est pas juste un concept politique froid. Ça se vit à travers l'art, l'émotion partagée. Et c'est ce ciment-là qui donne sa force à la diplomatie. Donc, si on résume, une position qui s'impose à l'international. Mais ça a forcément des conséquences pour les autres, notamment l'Algérie, qui est directement visée, non ? Plus que visée, son statut change. Pour la première fois, le Conseil de sécurité la désigne explicitement comme « partie prenante ».
Ah, et ça, c'est crucial.
C'est essentiel. Elle ne peut plus se cacher derrière le statut de simple État voisin. Elle est à la table des négociations, qu'elle le veuille ou non.
Et comment est-ce que c'est analysé, Élise ?
Un éditorialiste qualifie la posture algérienne d'anachronique. Un réflexe de survie, en fait, d'un régime qui a besoin d'un ennemi extérieur pour exister.
D'accord. L'Algérie est mise au pied du mur. Et l'Europe, dans tout ça, elle qui a longtemps joué la carte de la neutralité.
Elle se retrouve à un carrefour stratégique, c'est le terme employé. Sa neutralité devient intenable.
Elle doit choisir son camp, en gros. Voilà. Continuer à être ambigu, c'est ignorer la nouvelle légalité internationale et c'est surtout fragiliser son partenariat avec le Maroc, qui est vu comme un pivot de la sécurité sur son flanc sud. Le message est clair, l'ambiguïté c'est fini. C'est une image de force incroyable sur la scène internationale. Mais ce qui est fascinant dans ce magazine, c'est qu'il retourne immédiatement le miroir vers l'intérieur. Et là...
Là, l'ambiance est très différente.
Oui, on passe des certitudes diplomatiques à des tensions sociales très, très palpables.
Ça commence par un coup de gueule spectaculaire.
Oui, un moment de politique assez rare, c'est le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, en pleine session budgétaire au Parlement.
Et il menace directement les élus locaux corrompus.
Et pas à moitié. Il utilise une expression d'une violence, il leur promet qu'ils devront rendre gorge. Rendre gorge, c'est une déclaration de guerre, en fait.
Carrément. Et l'auteur de la chronique souligne à quel point c'est un pari risqué pour le ministre.
J'imagine. Pourquoi ? D'abord, ça inverse les rôles. C'est l'exécutif qui menace le législatif, ce qui est périlleux. Et surtout, ça le met au défi de joindre le geste à la parole. Il est attendu au tournant. Et la réplique a été rapide, apparemment.
Immédiate. L'article raconte que dès le lendemain, le président du think tank Omega l'a interpellé sur les réseaux sociaux. Il lui a lancé un défi public sur un cas précis à Casablanca.
Ah oui, un bien communal qui serait devenu un centre commercial géant appartenant à un ancien haut responsable. Le message était « Chiche, monsieur le ministre, prouvez-le ». La pression est maximale.
Mais au-delà de l'anecdote, il y a une analyse de fond beaucoup plus dure. Un des articles s'attaque à ce qu'il nomme « la faillite des élites ». Oui. Et c'est sans doute un des textes les plus percutants. L'idée centrale, c'est que le Maroc ne manque pas de talent, mais d'une véritable conscience élitaire.
Il a une distinction qui est faite.
Oui, une distinction très forte entre une élite de conquête qui a vision, qui prend des risques, et ce qu'il appelle une élite d'autorisation.
Cooptée pour sa loyauté, en gros.
Voilà, cooptée pour sa loyauté au système et dont le but est de le préserver, pas de le transformer. La formule qui m'a le plus marqué dans cet article, c'est « Elle gère la société sans la sentir ».
C'est terrible.
C'est terrible, ouais, ça décrit une déconnexion totale. L'auteur parle d'une faille cognitive, pas forcément d'une faillite morale.
Ce ne sont pas des gens mal intentionnés, mais ils sont dans une bulle. C'est exactement ça. La phrase est juste. Elle parle d'indicateurs quand la population parle de dignité. Le langage n'est plus le même. Elle maîtrise les tableaux Excel, mais peine à comprendre les angoisses profondes du pays. Et cette déconnexion a des conséquences très concrètes, notamment sur l'économie et l'emploi. On en arrive à ce paradoxe marocain, une croissance qui ne crée pas assez d'emplois.
Et voilà le lien direct. L'explication, c'est que les choix d'investissement, pilotés par cette élite, vont massivement vers les grands projets d'infrastructure.
Autoroutes, ports, TGV.
Des projets nécessaires, oui, mais à très forte intensité de capital, et qui emploient au final assez peu de monde.
Pendant ce temps, les PME, qui sont le vrai gisement d'emplois.
Elles sont les grandes oubliées, alors qu'elles représentent 95% du tissu économique.
Ce qui explique le dilemme de la jeunesse, dont parle aussi le magazine, cette obsession pour la fonction publique.
Ce n'est pas qu'une question de mentalité, c'est un choix rationnel, un calcul de survie.
Face à un secteur privé jugé précaire, voilà. Je cite, « L'employé demeure à la merci de l'employeur. » Donc la fonction publique, elle, offre la sécurité. C'est la traduction économique directe de cette faille cognitive. Cette question de la perception, de la confiance. C'est une transition parfaite pour le troisième grand dossier du numéro. On bascule dans le numérique. Mais pas sous l'angle de l'opportunité.
Non, plutôt sous celui de la menace. Et ça commence avec une histoire qui fait froid dans le dos.
L'arnaque qui a visé Attijari Wafa, une des plus grandes banques du pays.
Oui, l'histoire est simple et terrifiante. Une fausse pub pour une plateforme d'investissement circule, avec le PDG de la banque en personne qui en vante les mérites.
Sauf que ce n'était pas lui.
Évidemment, c'était un deepfake. Son visage et sa voix, parfaitement clonés par une intelligence artificielle.
C'est vertigineux. On ne pirate plus un système informatique, là. On pirate la réalité elle-même.
C'est le point fondamental que soulève l'article. La menace change de nature. Le maillon faible, ce n'est plus le mot de passe, c'est notre cerveau. Notre capacité à distinguer le vrai du faux.
Et quand ça touche le PDG d'une grande banque, ça attaque le cœur du système.
La confiance. Si on ne peut plus croire ce qu'on voit, tout peut s'effondrer.
Du coup, la réponse ne peut plus être juste technique. Ce n'est plus un problème pour les informaticiens.
Précisément. C'est un enjeu de société. Un des experts interrogés va même plus loin et parle d'enjeux de souveraineté nationale.
Au même titre que la protection des frontières physiques.
Exactement.
Il préconise des mesures d'urgence. Identité numérique certifiée pour les dirigeants, moteur de détection de deepfake. Sa conclusion est une phrase choc. La confiance est un patrimoine national. Et ce patrimoine est attaqué. Si on peut faire ça au patron d'une banque, qu'est-ce qui nous dit qu'on ne le fera pas pendant la prochaine campagne électorale ? 2026, ce n'est pas si loin.
C'est l'autre grande inquiétude. Le micro-ciblage des électeurs, avec des messages politiques faux, générés par IA. Et la question est posée. Notre cadre légal, la loi 0908 sur les données, est-il suffisant ? La réponse est non, j'imagine.
Clairement non. Face à l'opacité des algorithmes, cette loi est dépassée.
Et pour couronner le tout, le magazine évoque le phénomène des influenceurs virtuels. Là, on n'est même plus dans le faux, on est dans la création pure. Oui, comme cette Lil Miquela, un personnage créé par ordinateur, suivi par des millions de personnes, qui fait des campagnes pour des marques de luxe.
L'avantage pour les marques.
Elle est parfaitement contrôlable. Pas d'état d'âme, pas de scandale. Mais ça pose une question vertigineuse sur l'authenticité à l'ère de l'IA. On passe du faux qui imite le vrai à un faux qui devient sa propre réalité.
C'est un tableau incroyablement complexe. D'un côté, des victoires géopolitiques, de l'autre, des démons internes, et au milieu, cette révolution technologique qui sape la confiance.
Oui.
Et au milieu de tout ça, il y a un dernier texte beaucoup plus personnel, presque philosophique, qui m'a vraiment marqué.
Celui sur le voyage ? Il offre une conclusion inattendue, mais je trouve très éclairante.
Exactement. L'auteur raconte comment le voyage, le vrai, déconstruit les imaginaires collectifs. Il prend l'exemple de ce mythe de la fierté masculine du Sud qui fantasme un Occident où les femmes seraient des proies faciles.
Un fantasme nourri par le cinéma, les récits.
C'est ça. Et le voyage, dit-il, pulvérise ce mythe. On découvre qu'on est le centre du monde de personne. On se dépouille de ses certitudes. Sa phrase de fin est magnifique, il dit qu'on apprend à être un humain, pas un mâle boursouflé de certitudes.
Et c'est là que ça fait le lien avec tout le reste. Cette déconstruction des mythes personnels, c'est peut-être la clé pour affronter tous les autres défis ?
Développer.
Mais pour la diplomatie, c'est déconstruire le mythe d'une position figée. Pour les élites, c'est déconstruire le mythe qu'on peut diriger un pays depuis une tour d'ivoire. Et face à la technologie, c'est déconstruire le mythe que nos sens sont infaillibles. C'est exactement ça. Et c'est la pensée finale que je voudrais laisser. À travers tous ces textes, on voit un Maroc qui livre des combats sur tous les fronts, géopolitiques, économiques, technologiques. Mais la question un peu provocatrice qui ressort, c'est peut-être celle-ci. Au milieu de tous ces combats tournés vers l'extérieur, le défi le plus fondamental n'est-il pas intérieur ? Celui de déconstruire nos propres mythes.
Nos certitudes les plus ancrées, qu'elles soient collectives sur notre place dans le monde, ou intimes sur qui nous pensons être,